C'est l'émission Libre Propos. Au micro, Karine Delamère, à la régie, Simon Martin et mon invité, Didier Gougis. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel et voici l'émission Libre Propos. Le temps des médias n'est pas celui de l'homme. Aujourd'hui, mon invité, Didier Gougis, va nous donner des clés de lecture pour mieux comprendre notre actualité. Bonjour Didier.
Bonjour.
Didier, je suis heureuse de vous accueillir, car à chaque fois qu'on regarde l'actualité, à chaque fois on est assez heurté, assez bousculé dans notre affectif, mais aussi dans notre sentiment de justice. Je voudrais qu'on parle des différents moyens d'utiliser particulièrement la misère, la détresse des autres. Quand on a vu par exemple cette fameuse photo du petit Elan mort sur la plage, on comprend l'idée, mais d'un autre côté ça nous bouscule beaucoup. Fallait-il ou pas publier ça? Est-ce que l'Église a quelque chose à nous dire par rapport à ça?
C'est une question de discernement moral. Une question de discernement moral parce que il y a en jeu des questions du respect de la personne, du respect de la famille, du respect de la mort, mais en même temps le besoin de sensibiliser l'opinion à une situation de détresse que vivent beaucoup de migrants qui traversent la Méditerranée. Et donc la réponse n'est pas blanc ou noir. Mmh. Et c'est toute la question de la morale aujourd'hui. C'est le mot moral n'a pas bonne presse. Hein. N'a pas bonne presse. On n'aime pas ce mot. Et pourtant, on ne cesse de se poser des questions morales. Ça, c'en est une par excellence. Devons-nous publier cette photo? De quelle manière? Comment? Voilà. Et donc la réponse, elle n'est pas évidente. Loin de là. Et il faut donc avoir un petit peu des outils, des repères pour discerner. Et c'est la question du discernement moral qui est au cœur de cette question-là.
Alors, qu'est-ce que c'est que la morale, concrètement?
Alors, on parle plutôt... on aime beaucoup parler d'éthique.
Oui. Hein,
ça, c'est très à la mode de parler d'éthique, mais pas du tout de morale.
C'est différent.
Donc, c'est un peu différent, oui. Il y a de la différence entre les deux. Mais il y a aussi une question de mode. C'est-à-dire que, comme je le disais, le mot moral n'étant pas vraiment bien reçu. Pourquoi il n'est pas bien reçu? Parce qu'il fait référence à des normes. Hein, la morale fait référence à des normes ou à la loi, une loi. Et ça, aujourd'hui, on n'aime pas ça parce que on est dans une société où l'individu doit primer et l'épanouissement de l'individu et la loi est perçue ou la norme est perçue comme étant contraignante, ce qui est effectivement le cas, et donc réduit la liberté ou entrave la liberté des individus. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'aime pas parler de morale. Mmh. N'empêche qu'on se pose sans cesse des questions de morale et on se pose sans cesse des questions de rapport à la norme ou à la loi. Et donc, on peut un petit peu approfondir cette question-là. Le Concile Vatican II a insisté sur scruter les signes des temps. Hein, ça, c'est dans Gaudium et Spes. Scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de l'Évangile. Alors, c'est tout à fait cet axe-là. C'est-à-dire, on sort par cette phrase, on sort du juridique, du purement juridique. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est permis, c'est défendu. Mais on va opérer un discernement. Et donc, comment opérer un discernement? Alors, il nous faut quelques convictions de départ pour pouvoir le faire, hein, quelques points d'appui. Alors, le point d'appui le plus fort pour nous, c'est la personne humaine. Hein, c'est-à-dire que le respect de la personne humaine, c'est le point le plus approprié parce que la morale est au service des personnes. Au service
ah
des
oui.
personnes.
Et donc
voilà.
Elle n'impose pas.
Et
un
donc
jeu, quoi.
Voilà. Donc ça va être le point d'appui le plus solide. Et on a besoin autour de ça d'une réflexion sur ce que c'est que cette personne humaine, hein, bien sûr, qu'est-ce qui permet de se développer, etc. Et puis un autre point de repère, c'est autour de Paul Ricoeur qui a pensé la question morale, où lui, il parle d'éthique, mais on verra tout à l'heure, je dirais un petit quelque chose sur le passage de l'éthique à la morale, mais lui, voilà comment il définit l'éthique, c'est la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Alors on a trois pôles, hein, le je, le tu, le il. Mmh. Le jeu, le tu, il, et c'est ces trois pôles fondamentaux qui vont être les trois pôles autour de laquelle va tourner la réflexion morale. C'est-à-dire, le jeu, c'est la conception du bonheur individuel, j'en parlais tout à l'heure, on a plutôt tendance aujourd'hui à insister sur ce jeu. Bien sûr, c'est différent selon les personnes, les jeux sont différents, mais il s'agit de prendre en charge sa vie, de croire en sa capacité d'agir, etc. Affirmer d'un « je peux ». Ça, c'est le premier pôle. Deuxième pôle, le « tu ». Nous vivons en relation avec d'autres que nous aimons ou que nous n'aimons pas, mais avec qui nous sommes en relation. Et donc, il va falloir tenir compte de ce pôle « tu », bien entendu, dans le discernement moral. On n'est pas seul au monde. Et puis, le « il », eh bien, c'est plus large. Ce sont les autres dans le sens de la société, on pourrait dire. C'est-à-dire que nous, les autrui sans visage, dit Paul Ricoeur, on est en interaction avec plein de personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'on est en communication, ne serait-ce que parce qu'on va manger des choses que des agriculteurs ont produites qu'on ne connaît pas, parce qu'on va devoir faire des choix dans nos achats, etc., etc. Tout ça, ce sont des choix moraux. Ne serait-ce que d'acheter, c'est un choix moral.
Oui, de plus en plus.
Oui, bien sûr. Donc, je, tu, il, on va jouer entre ces trois pôles. La réflexion morale va tenir compte de ces trois pôles. Il ne faut pas en lâcher un, parce qu'on ne peut pas réfléchir simplement à partir de soi-même. On ne peut pas réfléchir simplement à partir de ce qu'on connaît ou simplement à partir de la société. Mais c'est une articulation entre ces trois pôles. Circulation permanente. Voilà.
Excusez-moi, quand on vous écoute, on entendait au début moral, c'est vrai, le côté quelque chose assez statique, et là, on entend finalement quelque chose où vous parlez de discernement, vous parlez de l'intelligence humaine, vous parlez de la relation. C'est en fait, finalement, un appel à faire agir notre intelligence et à être acteur de quelque chose, finalement.
Absolument.
On se pose toujours la question, finalement.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas à appliquer une liste de choses qu'on doit faire. On n'est plus du tout dans cette conception-là de la morale, mais dans une conception dynamique, c'est-à-dire que dans chaque situation, on a à opérer un discernement, à repérer le pour, le contre, et on n'aura jamais de blanc et de noir, mais on aura toujours à choisir entre un gris et un gris. Et c'est pas le discernement moral, c'est justement ça, c'est faire jouer le pour et le contre d'un choix qu'on a à faire en essayant de prendre en compte la situation globalement et non pas en se référant simplement à une loi ou une règle qu'on aurait appliquée bêtement.
Donc là, c'est tout sauf l'éloge de la paresse.
Oui, absolument, oui. Alors, on parlait de l'éthique et la morale. Alors, le passage de l'éthique à la morale, justement, on pourrait dire que c'est la loi qui fait passer de l'éthique à la morale. L'éthique, c'est une réflexion personnelle, mais dans cette réflexion personnelle, on va avoir un référent qui est la loi ou la norme. Mmh. Et quand on va prendre référence à cette loi ou cette norme qui nous est extérieure, qu'on n'a pas inventée, qui nous est imposée en quelque sorte, alors là, on rentre dans le discernement moral parce qu'on ne va pas simplement prendre en compte nos propres avis ni l'avis des autres avec qui on est en relation, mais on va tenir compte aussi d'une norme qui nous dépasse. Et ça, c'est pas très accepté aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans notre société, eh bien, les normes, elles sont diverses. Dans une société unifiée, qui était celle d'autrefois, où on pouvait penser que l'Église catholique, notamment, avait été suffisamment prégnante pour que ces normes soient reçues de tous, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit bien qu'on est dans un monde complexe et il y a un conflit des normes.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà.
C'est vrai qu'on se sent complètement à part.
Et donc, c'est un grand défi. C'est un grand défi pour l'éthique aujourd'hui ou la morale aujourd'hui. C'est que, justement, il y a un conflit des normes. On n'a pas les mêmes référents dans notre société. Mmh. Et comment va-t-on pouvoir construire un discernement à travers ces différentes normes en fonction du lieu d'appartenance où on est ? On ne va pas forcément avoir la même réflexion éthique. Et c'est tout l'enjeu des groupes comme les comités d'éthique, ou bien même l'enseignement de la morale à l'école, mais sur quoi on va se baser pour faire cet enseignement moral à l'école, quelle est la norme commune sur laquelle on va s'appuyer, c'est compliqué. Et on voit bien qu'il y a cette méfiance de la morale et en même temps, l'éthique est omniprésente dans notre monde puisque les questions sont tout à fait présentes. Alors, on a quelques éléments de complexité aussi à prendre en compte, je pense, dans cette réflexion morale. Donc là, je parlais de la diversité des normes, mais il y a aussi l'importance de la technologie.
Oui,
on est plus en
tout,
plus,
hein,
de
ouais.
plus en plus dépendant de dispositifs technologiques. Le pape François en a beaucoup parlé dans son encyclique Laudato Si, en disant, voilà, la technologie prend le pouvoir. Et donc, il y a bien sûr des avantages dans la technologie, mais en même temps, il y a aussi une perte, un risque de perte de liberté et qui va influer sur le discernement moral. Parce que cette technologie peut nous imposer des choix, modes de pensée, des modes de vivre. Voilà. Il y a aussi un autre élément qui joue, c'est la constante accélération. On va de plus en plus vite. Hein, et donc ça nous empêche de réfléchir. On a de moins en moins de temps pour réfléchir. Et un chercheur parlait de famine temporelle. Voilà. On est dans une famine temporelle, c'est-à-dire qu'on est toujours en train appelé à courir en avant, mais quand est-ce qu'on va s'arrêter pour justement réfléchir et voir quel choix on va opérer dans telle situation et pas simplement suivre le mouvement. Un autre obstacle, ou une difficulté plutôt, c'est qu'on est dans un monde imprévisible, on ne sait pas ce que demain sera fait, de quoi demain sera fait. Les modèles de prévision n'existent plus, ils sont en échec, même la prévision météorologique, c'est pour dire. Hein, on fait une sorte d'expérience d'impuissance à prévoir l'avenir, donc c'est pas facile justement de faire des choix moraux dans cette situation-là. Un monde pluriel dans lequel on a de multiples religions, de multiples philosophies de la vie, de multiples cultures.
Donc de multiples référents.
Et ben voilà, de multiples référents. Et donc, on n'a pas d'unanimité sur une conception du bien. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Mourir dans la dignité. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir dans la dignité? Nous aussi, on est pour mourir dans la dignité. Hein, on est contre le fait de mettre fin à ses jours, on est contre l'euthanasie, mais on est pour mourir dans la dignité.
Oui, et pourtant, mourir pour la dignité, c'est pour l'euthanasie.
Voilà. Donc, vous voyez bien qu'à travers les mêmes mots, on n'a pas les mêmes référents. Et puis, alors, du coup, on a un éclatement de la morale, quoi, hein, une fragilisation de la vérité. Alors, il y a la question de la vérité qui est intéressante, c'est-à-dire, ça fait partie des défis pour l'Église, pour ceux qui cherchent à réfléchir pour notre monde, et parce que un référent moral, c'est une vérité qui nous dépasse, hein, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, mais quelle est cette vérité? Comment on peut s'approcher de la vérité, hein? Et je pense que l'Église a bougé dans sa conception de la vérité, hein, elle a bougé. On fait une expérience du bien à travers l'expérience de Dieu. C'est ça, le propre de la vie chrétienne. Hein. Et on affirme que le bien n'est pas illusoire, bien sûr. Il y a un bien, mais le bien, il est une personne. C'est-à-dire, c'est suivre le Christ. Le Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et donc, le bien et la vérité, on ne la possède pas. On ne la maîtrise pas.
Alors, chacun n'en a pas un...
C'est pas à chacun sa vérité. Ce qui serait un déni de la vérité, du fait, puisque justement la vérité c'est quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Mais par contre, la vérité on ne la maîtrise pas, on ne la possède pas, on est en recherche. Hein. Et donc la vérité c'est quelque chose où quelqu'un a recherché, et c'est une quête du bien, hein, et une exigence autant intellectuelle que spirituelle. Voilà. Et cette recherche de la vérité, elle est toujours à reprendre. Quelqu'un qui dit « je possède la vérité, je connais la vérité », alors il faut s'en méfier. Parce que ça veut dire que la vérité, il se l'est accaparée, donc il l'a fait à sa sauce.
C'est ça. Et en fait, il faut prendre du temps, il faut prendre du recul, il faut prendre le temps de la réflexion.
Voilà.
Alors, Didier, merci beaucoup. Ce sujet est juste passionnant. Donc, chers auditeurs, je vous propose qu'on continue une deuxième partie pour la semaine prochaine. À très bientôt, Didier.
À la semaine prochaine. Au revoir.